Toute cette funeste journée, Faramir resta étendu dans la chambre de la Tour Blanche, perdu dans une fièvre délirante. « Mourant, » dit un homme, et ce mot se répandit bientôt partout sur les murs et dans les rues. Et son père restait assis à son chevet et ne disait mot, mais se contentait d'observer sans plus aucunement se soucier de la défense. Pipin n'avait jamais connu d'heure aussi sombre, pas même entre les griffes des Ulukai. Il s'en tint au devoir qui lui incombait d'attendre les ordres du Seigneur. Et pour attendre, il attendit, presque oublié, debout à la porte de la chambre laissée dans l'ombre, maîtrisant ses propres craintes du mieux qu'il le pouvait. Et de sa place, il lui semblait que Denethor vieillissait à vue d'œil, comme si quelque chose avait eu raison de sa volonté orgueilleuse et de son esprit implacable. Peut-être était-ce le deuil, peut-être le remords. Il vit couler des larmes sur ce visage naguère impassible, des larmes plus insoutenables que le courroux.
« Ne pleurez pas, Seigneur, »
balbutia-t-il.
« Peut-être qu'il se remettra. Avez-vous demandé à Gandalf ?»«
Ne me consolez pas avec un magicien, » dit Denethor. « L'espoir de ce fou s'est éteint. L'ennemi l'a trouvé et son pouvoir grandit. Nos pensées mêmes lui sont exposées et tous nos faits et gestes amènent notre ruine. J'ai envoyé mon fils, sans remerciement ni bénédiction, au-devant d'un péril inutile, et le voilà qui gît avec du poison dans les veines. Non, non, quoi qu'il advienne désormais à la guerre, ma lignée se meurt aussi. Même la maison des intendants viendra à s'éteindre. Les derniers vestiges des rois des hommes seront gouvernés par des médiocrités, condamnés à rôder dans les collines jusqu'à ce que tous soient débusqués. »
Des hommes accoururent criant à la porte, réclamant le seigneur de la cité.
« Non, je ne descendrai pas, » répondit celui-ci. « Je dois rester auprès de mon fils. Il pourrait encore parler avant la fin, mais elle est proche. » Suivez qui vous voudrez, même le fou gris, bien que son espoir soit réduit à néant. Ici je reste. »
Ce fut donc Gandalf qui assuma le commandement de la dernière défense de la cité du Gondor. Sa seule présence, où qu'il allât, redonnait du cœur aux hommes et chassait le souvenir des ombres ailées. Inlassablement, à grande foulée, il allait de la citadelle à la porte, du nord au sud le long du mur. Et le prince de Dol Amroth l'accompagnait dans sa brillante armure. Car lui et ses chevaliers se tenaient encore comme des seigneurs de franche lignée nouménoréenne.
« Il semble que les contes anciens ont du vrai, » chuchotait-on en les voyant. « Ces hommes ont du sang elfique dans les veines, car il fut un temps où les gens de Nimrodel vivaient dans leur pays. »
Et l'un d'eux de chanter dans la pénombre quelques vers du lait de Nimrodel, ou d'autres chansons de la vallée de l'Anduin, des années disparues. Et pourtant, dès qu'ils repartaient, les ombres se resserraient autour des hommes, leur cœur se glaçait, et la valeur du Gondor tombait en cendres. Ainsi, un demi-jour de peur laissa lentement place aux ténèbres d'une nuit sans espoir. Des feux ravageaient le premier cercle de la cité sans pouvoir être maîtrisés, et à bien des endroits, la garnison du mur extérieur était déjà coupée de toute retraite. Ceux qui demeuraient fidèles au poste étaient d'ailleurs fort peu nombreux. La plupart avaient fui au-delà de la deuxième porte. Loin du front, on avait rapidement jeté un pont sur le fleuve, et tout au long de la journée, les troupes et le matériel de guerre n'avaient cessé de se déverser sur l'autre rive. Enfin, à la minuit, l'assaut fut lâché. L'avant-garde franchit les tranchées de feu par mince sentier tortueux que l'on avait laissé entre elles. L'ennemi, indifférent aux pertes encourues et encore massé en troupeau, s'avança à portée de tir des archers du mur. Mais il restait trop peu d'entre eux, en vérité, pour causer d'importants ravages. Encore que la lueur des feux eût révélé de nombreuses cibles à des archers de premier plan comme il s'en trouvait autrefois au Gondor. Alors, voyant que la valeur de la cité faisait déjà défaut, l'invisible capitaine déploya toute sa force. Lentement, les grandes tours de siège construites à Osgiliath se mirent en branle à travers les ténèbres. De nouveaux messagers se présentèrent à la chambre de la Tour Blanche, et Pipin les laissa entrer car ils se montraient pressants. Denethor, toujours concentré sur le visage de Faramir, détourna lentement la tête et le regarda en silence.
« Le premier cercle de la cité est en flammes, seigneur, » dirent-ils. « Quels sont vos ordres? Vous êtes toujours notre seigneur et intendant. Tous ne veulent pas suivre Mithrandir. Les hommes fuient et laissent nos murs sans défense.
« Pourquoi? Pourquoi ces imbéciles fuient-ils ? » dit Denethor. « Autant brûler plus tôt que tard, car à brûler il nous faut. Retournez à votre feu de joie. Moi, j'irai maintenant à mon bûcher. Mon bûcher. Point de tombeau pour Denethor et Faramir. Point de tombeau. À d'autres le lent et long sommeil de mort embaumé. Nous brûlerons comme les rois païens. Devant qu'un premier navire ne vint ici de l'ouest. L'ouest a échoué. Retournez brûler. »
Sans répondre ni saluer, les messagers tournèrent les talons et s'enfuirent. Alors Denethor se leva, lâchant la main fiévreuse de Faramir qu'il avait tenue dans la sienne.
« il brûle déjà, » dit-il tristement. « La demeure de son esprit s'écroule. »
Et, s'avançant doucement vers Pipin, il abaissa son regard vers lui.
« Adieu, » dit-il. « Adieu, pérégrin, fils de paladin. Votre service aura été bref. Maintenant il tire à sa fin. Je vous dispense du peu qui reste à faire. Partez maintenant. Allez mourir comme bon vous semblera. Et avec qui vous voudrez, même cet ami dont la folie vous a livré à cette mort. » « Allez quérir mes serviteurs et partez. Adieu. »«
Je refuse de vous dire adieu, monseigneur, »
dit Pipin, s'agenouillant. Puis soudain, retrouvant sa manière de hobbit, il se leva et regarda le vieil homme dans les yeux.
« Je prendrai congé de vous, messire, » dit-il, « car je désire vivement voir Gandalf, je l'avoue. Mais il n'a rien d'un fou, et je ne songerai pas à mourir avant que lui ne désespère de vivre. » Je ne souhaite pas pour autant être libéré, ni de ma parole, ni du service qui me lie à vous tant que vous vivrez. Et s'ils viennent à investir la citadelle, j'espère être ici à vos côtés et peut-être mériter les armes que vous m'avez données.
« Comme vous voudrez, maître demi-homme, » dit Denethor. « Mais ma vie est brisée. Faites venir mes serviteurs. »
Il se tourna de nouveau vers Faramir. Pipin le quitta et fit venir les serviteurs qui accoururent. 6 hommes de la maison, beaux et forts. Pourtant, ils tremblaient d'être appelés. Mais Denethor leur demanda calmement de mettre des couvertures chaudes sur le lit de Faramir et de le soulever. Ce qu'ils firent. Et ils le portèrent hors de la chambre. Ils marchaient lentement, de manière à troubler le repos du malade aussi peu que possible. Et Denethor, à présent courbé sur un bâton, les suivait. Pipin fermait la marche. Ils sortirent de la Tour Blanche, tel un cortège funèbre sous la grande obscurité et le nuage flottant, que des éclairs d'un rouge terne éclairaient par en dessous. Ils traversèrent lentement la grande cour, et sur un mot de Denethor, ils s'arrêtèrent près de l'arbre desséché. Tout était silencieux, hormis la rumeur de guerre dans la cité en contrebas. Et les gouttes d'eau s'entendaient, tombant des branches mortes et tintant tristement dans l'eau sombre. Puis, ils passèrent la porte de la citadelle sous le regard ahuri et consterné de la sentinelle en faction. Tournant vers l'ouest, ils arrivèrent enfin à un portail dans le mur arrière du 6e cercle. Cette porte se nommait Fenhollen, car elle était toujours fermée, sauf lors de funérailles, et seul le seigneur de la cité pouvait la franchir, hormis ceux qui portaient l'insigne des tombeaux et qui s'occupaient des demeures des morts. Au-delà, un chemin sinueux descendait en lacet vers l'étroite corniche où se trouvaient, dans l'ombre des escarpements du Mindolwin, les demeures des rois morts et de leurs intendants. Un portier était assis dans un petit pavillon à l'entrée, et il s'avança d'un air craintif, une lanterne à la main.
Sur l'ordre du seigneur, il leur ouvrit la porte, laquelle pivota en silence pour les laisser passer. Et ils entrèrent, prenant la lanterne de la main du portier. Il faisait sombre sur la route escarpée, entre les murs anciens et les balustrades à colonnettes, que laissait entrevoir le faisceau de la lampe oscillant de part et d'autre. Leurs pas lents résonnaient sur les pavés tandis qu'ils descendaient, toujours plus bas, jusqu'à la rue silencieuse, Rath Dinen, entre les dômes pâles et les salles vides et les images sculptées d'hommes depuis longtemps partis. Et ils entrèrent dans la maison des intendants et y déposèrent leur fardeau. Pipin, regardant alentour d'un air inquiet, vit qu'il se trouvait dans une vaste chambre voûtée. Drapée, eût-on dit, dans les ombres immenses que jetait la petite lanterne sur ses murs enveloppés de deuil. Plusieurs rangées de tables sculptées dans le marbre s'offraient obscurément à la vue, et sur chacune d'elles était couchée une forme endormie, les bras repliés, la tête reposant sur la pierre. Mais l'une des tables tout près était large et nue. Sur un geste de Denethor, ils y étendirent Faramir et son père, côte à côte, sous une unique couverture. Après quoi, ils se tinrent auprès d'eux, courbant la tête, tels des veilleurs autour d'un lit de mort. Denethor parla alors à voix basse.
« Nous attendrons ici, » dit-il, « mais n'appelez pas les embaumeurs. Apportez-nous du bois prêt à brûler, placez-le tout alentour et en dessous, puis versez-y de l'huile. Et à mon commandement, jetez-y une torche. Faites ce que je vous ordonne et ne me parlez plus. Adieu. »
« Avec votre permission, Seigneur !» s'écria Pipin, et il se retourna et s'enfuit épouvanté de la chambre mortuaire. « Pauvre Faramir !» pensa-t-il. « Je dois trouver Gandalf. Pauvre Faramir ! Sans doute qu'il a bien plus besoin d'un remède que de larmes. Oh, où trouver Gandalf ? En plein cœur de l'action, probablement. Et il n'aura pas le temps à consacrer aux mourants ni aux fous. »
À la porte, il se tourna vers l'un des serviteurs qui était resté pour la surveiller.
« Votre maître n'a pas toute sa tête, » dit-il. « Prenez votre temps. N'apportez aucun feu ici tant que Faramir sera en vie. Ne faites rien avant que Gandalf ne vienne. »
« Qui est le maître de Minas Tirith ?» répondit l'homme. « Le seigneur Denethor ou l'Errant Gris ?»«
L'Errant Gris ou personne, on dirait bien, » dit Pipin.
Et il remonta le chemin en lacet du plus vite qu'il le put, passa sous le regard ahuri du portier, sortit, puis gagna l'entrée de la citadelle. La sentinelle le héla au passage et il reconnut la voix de Bérégon.
« Où allez-vous comme ça, maître Pérégrin ? » cria-t-il.
« Trouvez Mithrandir !»
répondit Pipin.
« Les commissions du seigneur sont urgentes et je ne voudrais en aucun cas les entraver, » dit Bérégon. « Mais dites-moi vite, si vous le pouvez, que se passe-t-il là-bas ? Où mon seigneur est-il allé ? Je viens d'arriver à mon poste, mais j'ai entendu dire qu'il s'est rendu à la porte close et que des hommes transportaient Faramir devant lui. »
« Oui, » dit Pipin, « à la rue silencieuse. »
Bérégon baissa la tête pour mieux cacher ses pleurs.
« On disait qu'il était mourant, » soupira-t-il, « et maintenant il est mort. »«
Non, » dit Pipin, « pas encore, et sa mort peut encore être évitée selon moi. Mais Bérégon, le seigneur de la cité, est tombé avant la prise de sa cité. Il cherche la mort et est dangereux. »
Pipin lui rapporta brièvement les paroles et les actes étranges de Denethor.
« Je dois trouver Gandalf au plus vite. Dans ce cas, il vous faut descendre à la bataille. Je sais, le seigneur m'a donné la permission de m'absenter, mais faites quelque chose, Bérégon, si vous le pouvez, pour empêcher qu'un drame ne se produise. »
« Le seigneur ne permet pas à ceux qui portent le noir et argent de quitter leur poste sous aucun motif, sauf sur son commandement.
Eh bien, il vous faudra choisir entre vos ordres et la vie de Faramir, » dit Pipin. « Et pour vos ordres, je pense que vous avez affaire à un fou, non à un seigneur. Je dois y aller. Je vais revenir si je peux. »
Il dévala le long des rues vers les cercles extérieurs. Des hommes le croisaient en chemin, fuyant l'incendie, et certains remarquaient sa livrée et se retournaient pour l'appeler, mais il ne fit pas attention à eux. Enfin, il passa la deuxième porte, au-delà de laquelle de grands feux jaillissaient entre les maisons. Pourtant, tout était étrangement silencieux. Aucun bruit ni clameur ni fracas d'armes ne montait à ses oreilles. Puis soudain, il y eut un cri affreux, suivi d'une terrible secousse. un choc sourd et profond qui résonna dans la cité. Luttant contre une bouffée de peur et d'horreur dont la violence le mit presque à genoux, Pipin tourna un coin et déboucha sur la grande place derrière la porte de la cité. Il s'arrêta net. Il avait trouvé Gandalf. Mais il recula d'effroi et se tapit dans l'ombre. Depuis la minuit, le grand assaut s'était poursuivi. Les tambours roulaient. Du nord comme du sud, les compagnies ennemies déferlaient et se pressaient contre les murs. De grandes bêtes venaient également, telles des maisons ambulantes à la lueur vacillante des flammes. Les Moumakil du Harad tirant parmi les rangs et au milieu des feux d'énormes tours et engins. Mais ce qu'elles faisaient, et combien risquaient d'être abattues, leur capitaine ne semblait guère s'en soucier. Il comptait seulement éprouver la force de la défense et tenir les hommes du Gondor occupés à de nombreux endroits. Car c'était sur la porte qu'il appliquerait son plus grand poids. Si forte fut-elle, de fer et d'acier, flanquée de tours et de bastions de pierre irréductibles, c'était pourtant la clé, le point faible de toute cette haute et impénétrable muraille. Les tambours roulèrent de plus belle, les flammes montèrent, de lourds engins s'avancèrent sur le champ de bataille, et au milieu était un énorme bélier, gros comme un arbre de 100 pieds, qui se balançait sur de grandes chaînes. Longue avait été sa mise en œuvre dans les sombres forges du Mordor, et sa hideuse tête, fondue d'acier noir, était à l'image d'un loup altéré de sang. Des sorts de ruines y étaient apposés. Il l'avait nommé Grond, en souvenir du marteau des enfers du temps jadis. De grandes bêtes le tiraient, des orques l'entouraient, et des trolls des montagnes venaient derrière lui pour le faire jouer. Mais autour de la porte, la résistance était encore vive. Là, les chevaliers de Dol Amroth et les plus hardis de la garnison tenaient tête à l'assaillant. Les tirs et les flèches tombaient dru, les tours de siège se renversaient ou flambaient soudain comme des torches. Et tout le long des murs de part et d'autre de la porte, le sol était couvert de débris et d'une multitude de cadavres. Mais toujours poussé par la même folie, l'ennemi continuait d'affluer. Grond rampa en avant. Aucune flamme ne prenait sur son revêtement. Et s'il arrivait que l'une ou l'autre des grandes bêtes devint folle et se mit à écraser les innombrables orques qui la gardaient, leur corps était simplement balayé de son chemin, et d'autres les remplaçaient. Les tambours roulèrent furieusement. Sur les amas de cadavres parut une forme hideuse, un grand cavalier portant une cape et un capuchon noir. Lentement, il s'avança, piétinant les morts, sans plus craindre aucun trait. Puis, il s'arrêta et brandit une longue et pâle épée. À cet instant, une grande peur envahit tous ceux qui étaient là, défenseurs ou ennemis. Les mains des hommes retombèrent sur leurs flancs et nul arc ne chanta. Tout resta figé un moment. Grond rampa en avant. Les tambours roulèrent avec fracas. D'un terrible élan, Grond s'avança, projeté par des mains géantes. Il parvint à la porte, la heurta. Un grand grondement traversa la cité comme le tonnerre parmi les nuages. Mais les portes de fer et les jambages d'acier soutinrent le choc. Le noir capitaine se dressa alors sur ses étriers et cria d'une voix terrible, prononçant en quelques langues oubliées des mots de puissance et d'épouvante à fendre et le cœur et la pierre. Par trois fois il cria, par trois fois le grand bélier s'abattit. Et soudain, au dernier coup, la porte du Gondor se brisa. Comme frappée par un sort fulminant, elle vola en éclats. Il y eut un éclair saisissant, et les fragments se renversèrent sur le sol. Vint le seigneur des Nazgûl. Il engouffra la vue, haute forme noire devant les feux de la bataille, tel un nuage de désespoir. Vint le seigneur des Nazgûl, sous le portail qu'aucun ennemi n'avait encore franchi, et tous fuirent devant lui. Tous, sauf un. Là attendait, silencieux et immobile, au milieu de la place devant la porte, Gandalf, monté sur Scadufax. Scadufax, seul des chevaux libres de la terre, capable d'endurer l'horreur, impassible, inébranlable, telles les images gravées de Rath Dinen.
« Vous ne pouvez entrer ici !»
dit Gandalf. Et l'ombre immense s'arrêta.
« Retournez à l'abîme, préparé pour vous. Demi-tour, sombrez dans le néant qui vous attend, vous et votre maître. Partez !»
Le cavalier noir rejeta son capuchon. Et voici, il portait une couronne royale, mais elle ne reposait sur aucun crâne visible. Les feux luisaient, rouges, entre celle-ci et les vastes épaules enveloppées de noir. D'une bouche invisible, jaillit un rire macabre.
« Vieux fou !» dit-il. « Vieux fou, ceci est mon heure. Ne reconnais-tu pas la mort quand tu la vois ? Meurs à présent et fis de tes malédictions !»
Sur quoi, il leva son épée et des flammes coururent le long de la lame. Gandalf ne bougea pas. Mais à cet instant, quelque part dans une cour au fond de la cité, un coq chanta. Clair et perçant fut son cri, insoucieux de la guerre et de toute sorcellerie, accueillant seulement le matin qui, loin au-dessus des ombres de mort, venait avec l'aurore dans le ciel. Et comme en réponse, jaillit au lointain une autre note. Des cors, des cors, encore des cors. Leurs échos sonnaient faiblement contre les flancs du sombre Mindoluin. De grands cors du Nord, criant à pleine voix. Le Rohan arrivait enfin.